des héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Les Héroïnes. Bonjour Marine Combes.
Bonjour.
Marine, vous êtes la cofondatrice et la rédactrice en chef du magazine rennais féministe YEG, que l'on peut lire sur yegmag.fr. Je pense que je répète ça depuis 10 ans, mais je le répéterai encore 10
encore
ans
encore.
S'il le faut. Alors, pas d'invité avec nous aujourd'hui, quoique, voilà, une petite présence auprès de nous, mais pas mal d'infos et de la très bonne musique. On commence par l'actualité très chaude et dramatique, celle que l'on appelle dorénavant l'affaire des disparus de l'Aveyron. Peut-être avez-vous entendu parler de ce double féminicide dont le coupable est un ex-policier déjà condamné pour violence et que l'on vient d'arrêter au Portugal, où l'on a retrouvé les cadavres de sa femme et de son ex-femme qu'il a donc assassiné. Il s'appelle Cédric Prison. C'est un masculiniste violent et dangereux, un assassin. Il était recherché depuis 5 jours car soupçonné d'avoir enlevé son fils de 12 ans et parce que la mère de cet enfant, son ex-femme, avait disparu, mais aussi son actuelle compagne et leur bébé. Alors vous avez ou vous allez peut-être entendre parler d'un ancien joueur de rugby, d'un ancien policier, d'un père qui veut la garde de son fils. Ainsi, c'est ce qu'on pouvait lire aujourd'hui sur le site de France 3. Enfin, c'est ce qu'on pouvait lire hier en fait, et depuis ça a été modifié, mais en tout cas il y avait un article et la fin de cet article était celle-ci. L'amour d'un père pour son fils l'a-t-il conduit à commettre des actes irréparables ? La bonne blague, enfin la mauvaise blague. Stéphanie Lamy, chercheuse notamment spécialiste du terrorisme masculiniste, autrice du livre « La terreur masculiniste », vient de publier une pétition pour demander la saisine du parquet national antiterroriste dans cette affaire. Car oui, il s'agit bien de terrorisme. Cédric Prison a été condamné à 6 mois de prison avec sursis en 2021 pour violence conjugale, puis en 2022 pour non-présentation d'enfants et harcèlement de son ex-compagne. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Il remet en cause la garde alternée. Il appartient au groupe radicalisé Papa en colère. Papa en colère, ce sont des hommes qui se victimisent et qui accusent la justice et les femmes de tous leurs maux. Ils font l'apologie de la violence à l'égard des femmes et de la justice. Et donc, si vous voulez signer la pétition, eh bien, elle sera en ligne sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B. Bimbo, salope, vulgaire, débile, mauvaise mère, arriviste, menteuse, énorme, alcoolo, has-been, vieille, pathétique, folle, cassos. Ce sont les insultes et les jugements subis pendant 25 ans par Loana Petrucciani, morte mercredi 25 mars à 48 ans. À l'annonce de cette dramatique nouvelle, Fiona Schmidt, journaliste, a écrit ceci, je la cite, deux points, ouvrez les guillemets. Elle n'était pas la tête de gondole d'une industrie du divertissement qui prospère sur la haine de soi et des autres. Elle était une personne. Et il aura fallu qu'elle meure pour qu'on s'en souvienne et qu'on s'intéresse à elle 5 minutes de plus. Pas pour lui rendre hommage, pas pour se donner le beau rôle, pour oublier qu'on a toutes et tous participé de près ou de loin à la déshumanisation qui a fini par la tuer. Rose Lamy, quant à elle, a écrit « Purée, ça va être long la séquence de la mort de Loana. Principe bourgeois, un bon beauf est un beauf mort. » Depuis hier, c'est un festival de fétichisme, de réécriture des raisons de sa mort, de culpabilité bourgeoise. La voilà icône, quasi martyr, qui permet l'expiation. Loana Petrucciani est une victime de notre société patriarcale et voyeuriste, où il est de bon ton de se réjouir de la détresse et du malheur des autres, surtout quand les autres, ce sont des femmes. Premier exemple de ce sexisme dont elle a fait les frais, la scène de la piscine. Seule Loana Petrucciani va être jugée, montrée du doigt, insultée, rabaissée, salie. Le garçon, Jean-Édouard Lipa, lui, rien. Deuxième exemple de ce sexisme coupable, son corps et ses tenues à Loana. D'abord trop posé et trop sexy, puis, 25 ans plus tard, trop gros, trop moche. Un père violent et incestueux, une jeune fille paumée, exploitée par l'industrie du divertissement à des fins commerciales et d'audimat, des médias qui en font aussi leur chou gras, qui se délectent de sa chute, de son besoin vital de reconnaissance, de célébrité, d'amour, et qui se moquent d'elle, c'est à gerber. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marine, mais...
C'est vrai que c'est abject et en même temps, enfin, je comprends aussi ce que Fiona Schmidt et Rose Lamy, elles ont écrit. Enfin, on est vraiment en train de réécrire l'histoire de Loana, effectivement, pour un petit peu se mettre à distance de la responsabilité qu'on a.
Alors, figurez-vous, ma chère Marine, que parfois on entend encore cette petite phrase. Mais pourquoi vous militez encore pour le droit à l'avortement? C'est bon, c'est acquis? Eh bien oui, mais non. On sait par exemple, et on le répète hein, souvent ici dans les héroïnes, que la constitutionnalisation de l'IVG ne concerne que la liberté d'avorter et pas le droit d'avorter. On sait aussi ce qui se passe ailleurs, notamment quand l'extrême droite arrive au pouvoir ou des vieux mecs blancs privilégiés décident du sort de nos utérus. Ainsi, aux États-Unis, dans l'état de la Géorgie, depuis le 4 mars, Alexia Moore est emprisonnée, inculpée pour meurtre après une IVG médicamenteuse. Dans cet état, la loi interdit la plupart des avortements dès qu'un battement de cœur est détecté. Depuis 2024, un an et demi à peine, aux États-Unis, 210 femmes ont été inculpées pour des faits liés à leur grossesse selon une étude de Pregnancy Justice. Alors, autre sujet, et pas des moindres concernant l'IVG, c'est le contrôle coercitif. C'est quoi le contrôle coercitif? Ce sont toutes les pressions psychologiques, les menaces, le chantage, le harcèlement subi par des femmes de la part de leurs conjoints pour les contraindre à avorter. Alors c'est un phénomène qui est totalement silencieux, sur lequel il n'y a aucune étude, pas de statistiques et donc peu de condamnations, et qui pourtant existe bien au vu des nombreux témoignages recueillis dans les associations féministes et par le Grévio. Le Grévio, c'est le groupe d'experts sur la lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques. En France, il n'y a donc aucune législation pour faire de ce contrôle coercitif un délit, parce que par ailleurs, dans d'autres pays, ça existe. Il n'y a aucune inscription dans le code pénal. Pourtant, il mène souvent donc à des IVG forcés, mais aussi à des suicides forcés et des féminicides d'une extrême brutalité. Alors, puisqu'on parle grossesse IVG, Marine, savez-vous ce que l'on interdit à une femme enceinte afin que son bébé soit en bonne santé?
Ah bah à peu près tout, hein. Le fromage, l'alcool, la cigarette, la consommation de drogue, hein. Évidemment, les légumes pas bien nettoyés, bio, etc. Si on n'a pas eu de la toxoplasmose, etc., etc.
On est bien d'accord, hein, ni camembert, ni poisson cru, ni salade. Mais est-ce que vous saviez, Marine, que les pères influencent aussi la grossesse et la santé de leurs enfants à naître?
Ah, bah j'aurais quelques mots à toucher en rentrant.
Eh ben, ou alors il écoutera les héroïnes.
Voilà.
Hein. Parce qu'on fait peser sur la mère seule la pression, une pression dingue en fait, une pression folle, pour qu'elle soit en bonne santé. Et c'est une erreur. La santé des pères compte pour beaucoup. Une grande étude internationale leur rappelle à ses futurs pères qu'on est deux pour concevoir un enfant et que leur alimentation et leur hygiène de vie est partie prenante. Et pas uniquement quelques semaines avant la procréation, hein. En fait, ça se joue bien avant. L'étude publiée ces jours-ci provient du travail de chercheurs et chercheuses de l'université de Southampton, et on parle du poids, de l'âge, de la consommation de substances, alcool, drogue, qui pèsent sur le déroulement de la grossesse et la santé de l'enfant. Vous voulez des exemples? Moi, je vais vous en donner un, parce que je le trouve tellement parlant. Eh bien, l'âge avancé du père est associé à un risque accru d'autisme, un risque accru de schizophrénie et un risque accru de fausse couche. Et là, je dis coucou Hugo Frey, qui se sent prêt à devenir à nouveau papa à 95 ans. Coucou Gérard Darmon, père à 69 ans. Coucou Robert De Niro, père à 79 ans. Coucou Mick Jagger, père à 73 ans. Coucou, alors là, le pompon de la pomponnette. Coucou Al Pacino, père à 83 ans. Coucou Julien Clerc, père à 69 ans. Coucou Richard Gere, père à 70 ans. Je ne cite que, mais ouais, la liste est plus longue. Voilà, ça c'était les petites nouvelles autour de l'IVG. It's Britney, bitch. It's Britney, bitch. Marine, vous avez récemment assisté à la représentation rennaise du spectacle Debout. Et c'est peu de dire que ça vous a drôlement plu.
Oh, carrément. La semaine dernière, à La Paillette, j'ai pris naissance. Ouais, je vous assure. J'ai pris naissance grâce à un immense et intense moment de théâtre. La preuve que la culture, elle est essentielle dans nos vies. Là, je vous parle d'une œuvre qui n'est pas simplement un spectacle marquant. C'est aussi et surtout une expérience qui nous traverse physiquement, émotionnellement, politiquement. Ce spectacle, c'est Debout, épisode 1, Prendre naissance, et il est porté par la compagnie 13 dixième en ut. C'est une de ces œuvres bouleversantes qui dynamite la distance entre la scène et la salle, entre le passé et le présent, entre la mémoire collective et les vécus intimes. Quand on regarde la pièce, on la vit, on la ressent dans le corps et dans l'esprit, c'est partout. Dans l'écriture des textes, dans le jeu des comédiennes, dans les silences de la salle, dans les images d'archives, dans les slogans disposés sur la scène, l'énergie circule et elle est empreinte de forces collectives, de mémoires vivantes et d'émotions partagées. Debout, c'est un projet porté par les brillantes metteuses en scène Frédéric Mingan et Delphine Batour, qui au départ ont commandé des textes de 15 minutes pour 3 interprètes maximum autour des luttes féministes des années 70. Résultat, 8 autrices signent des récits politiques intimes, engagés, poétiques et réalistes à partir des causes militantes de l'époque, et on sait qu'elles sont nombreuses. Après un cycle de lecture théâtrale, l'adaptation au plateau a donc commencé, avec Prendre naissance, qui raconte comment naît un mouvement politique, comment se façonne la conscience militante et comment s'organise la lutte. Avec des textes de Catherine Benamou, Mariette Navarro et Marie Dilasser, alias Mardi, le premier épisode parle de violences sexuelles, d'existence et de culture lesbienne, d'avortement et de réappropriation de son propre corps. Sur scène, ce qui est frappant, c'est que les années 70, elles sont pas un décor nostalgique, elles sont brûlantes d'actualité. Ce sont les luttes qui ont fait basculer nos vies. Celles qui ont permis de reconnaître le viol comme un crime, celles qui ont vu émerger le mouvement de libération des femmes et les Gouines rouges, celles qui ont vu des militantes défendre des femmes lors de procès historiques aux côtés de Gisèle Halimi, celles qui ont mené à la loi Veil légalisant l'IVG dont on parlait juste avant, celles des avortements clandestins sécurisés par la méthode Carman, celles du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, mais surtout celles de femmes anonymes qui parlaient, dénonçaient, vivaient, vibraient, militer, celles qui ont offert en héritage la deuxième vague féministe dans sa rage et sa joie militante. Cette énergie-là, elle m'a fascinée et elle m'a transcendée, parce qu'elle résonne puissamment aujourd'hui. Elle résonne en moi, femme de presque 40 ans en 2006, elle résonne en une femme de 20 ans à l'époque, ça pourrait être ma mère, elle résonne chez les jeunes venus avec leur classe de collège ou de lycée, ça pourrait être mes enfants, mes neveux et nièces, les vôtres aussi. Alors voilà, elle retentit cette pièce entre les générations, entre les âges, entre les parcours. Le spectacle y crée une symbiose très émouvante, on vit leur situation et émotion, on ressent leurs doutes, leur colère, leurs élans militants, on se projette en elles, on s'éveille grâce à elles et avec elles. Et c'est là que le titre y prend tout son sens, prendre naissance. On prend naissance avec cette pièce, on se redresse, on se répare, on se cajole, on prend soin de soi et des autres. On boit du thé à la bergamote et on chante l'hymne des femmes, en chœur, à l'unisson, mais chacune, chacun avec sa voix, chacune, chacun avec son histoire. Parce que l'équipe de Debout, comme je l'ai dit au début de la chronique, elle fait tomber les barrières et elle prône la proximité, le dialogue, la solidarité et l'émancipation par le collectif. Que l'on connaisse bien l'histoire des luttes féministes des années 70 ou qu'on la découvre, on en ressort transformé, bouleversé, connecté. En tant que journaliste féministe, je suis profondément attachée à la transmission des luttes. Mais j'avoue avoir parfois une relation compliquée avec cette période présentée comme une sorte d'âge d'or politique, presque mythifiée, à se demander parfois si elle n'a pas été fantasmée. Avec la fameuse rengaine du « c'était mieux avant ». Les dialogues intergénérationnels, ils peuvent être crispés et crispants. On tente de comprendre les combats d'hier sans toujours se sentir comprise par nos aînés dans ceux d'aujourd'hui. Ce qui est formidable avec Debout, c'est que la pièce, elle efface toutes ces tensions, elle les met à distance et elle nous réconcilie avec notre passé collectif. La pièce, elle vient pas sacraliser davantage, elle transmet avec beaucoup de tendresse. Elle offre de la respiration, de la réflexion et de la circulation dans les propos et dans les énergies. C'est beaucoup de douceur, il y a un côté très rassurant, comme si les protagonistes nous prenaient sous leurs ailes et nous alignaient avec ce qui nous a précédés, avec beaucoup de bienveillance et sans jugement. C'est là aussi le talent de l'écriture, de la mise en scène et du jeu proposé, mais aussi des costumes, de la scénographie et de la régie, qui nous immergent dans trois tableaux sensibles et réalistes. Tout y est tellement brillamment incarné que ça leur permet de tisser des ponts entre les militantes d'hier et celles d'aujourd'hui. Pour ne pas oublier d'où l'on vient et reprendre le flambeau, sans éteindre la flamme des lesbiennes, des femmes noires, des ouvrières, des étudiantes, des mères, des sœurs, des amies, de toutes les héroïnes du quotidien, celles qui ont contourné les interdits, déconstruit les normes, tendu la main aux autres femmes, aimé et milité parfois au prix de leur vie, affirmé et assumé des choix et des identités controversées. Elles ont tracé leur chemin et ouvert la voie pour que nous, aujourd'hui, nous puissions faire entendre les nôtres. Alors voilà, on ressort avec la sensation d'avoir partagé un moment collectif puissant, intime et politique. Et cette sensation, elle nous accompagne ensuite au quotidien, elle s'inscrit en nous dans nos chairs et elle nous apaise sans nous priver en retour. On se nourrit et on se réjouit de cette joie militante et de toutes ces révolutions passées et à venir. C'est pas seulement du théâtre, comme je l'ai dit en introduction, c'est un endroit physique et philosophique où l'on prend naissance et on se relève ensemble, où on pose les armes tout en rechargeant nos batteries parfois usées, parfois découragées. Prendre naissance, c'est prendre conscience des inégalités, mais aussi de nos forces et de nos capacités. On se découvre des milliers et surtout, on se découvre encore et toujours debout.
Merci Marine. Alors, vous parliez de transmission, d'enfants, d'adolescents. J'ajouterais que l'équipe de Debout, les metteuses en scène, elles ont travaillé 3 ans de suite au collège des Gailleuls avec 2 enseignants assez formidables, Claire Novak et François Bouton, et des classes de 4e notamment et des classes de 6e. Et voilà, elles ont passé 3 ans auprès de ces adolescents pour leur parler du projet, de la lutte des femmes pour leurs droits, pour voilà. Donc ça va bien au-delà du spectacle. Eh bien, on va faire une première pause musicale sur Canal B dans les héroïnes, de la douceur, de la beauté, du son qui fait du bien partout, au cœur et à la tête. On écoute le morceau Evergreen du groupe Rennais Requine.
Falling to pieces under your lemon kisses on her love, coming to ashes evergreen, golden love is over. My delusion, your candor, your lemon kisses on her tears, rolling back roses evergreen, golden love is over. Your candor, your
Evergreen, morceau du groupe rennais Rekin, avec la sublime voix de notre amie Gwen Pacott qu'on embrasse bien fort. C'est passé presque inaperçu, Marine, c'était en février. On avait déjà eu les tenues républicaines de Jean-Michel Blanquer, hein, vous vous en souvenez ?
Oh oui !
Hein, le dispositif ultra sexiste et sexualisant pour les collégiennes et lycéennes. Voilà, on leur demandait, attention, d'arriver avec des tenues républicaines pour ne pas affoler les garçons.
Évidemment.
À la place de les éduquer, ces garçons et ces vieux garçons qui ont un regard malsain sur le corps des jeunes filles. Et bien maintenant, on a le guide de l'élégance de la SNCF, dont le PDG... Je dis ça, je dis rien, est un autre macroniste, Jean Castex. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un guide pour, je cite, « incarner l'élégance à la française, juger sexiste et grossophobe, et après l'apparition duquel, la direction de la SNCF aurait ouvert une enquête en interne ». Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce guide ? Eh bien, ce sont 40 pages de conseils beauté et un premier test pour savoir... Quelle est votre morphologie ? Avec cette première question, accrochez-vous bien. Où avez-vous tendance à prendre du poids ?
Oh
oui,
vache.
En 2026. Et pour amincir votre silhouette de grosse agente du chemin de fer, des conseils comme miser sur les décolletés en V.
Oh.
Les fesses ne doivent pas être moulées. Pour les femmes à large bassin, évitez les jupes moulantes aux poches volumineuses sur les hanches, les hauts moulants ou sans structure. Côté maquillage, c'est opter pour une mise en beauté subtile plutôt qu'un maquillage de soirée. Un teint naturel, uniforme et frais, un regard expressif mais maîtrisé et les lèvres soignées et harmonieuses.
On a du mal à garder notre sérieux.
Mais c'est vrai, c'est vrai.
Ben oui.
Et alors, les cheminots hommes ne sont pas en reste puisque, notamment, on leur conseille de mettre de la crème hydratante pour éviter les rougeurs. Voilà.
Quand
donc, si t'as une maladie de peau, eh ben voilà, tu l'as dans le baba. C'est édifiant. Alors, ça a été retiré, mais le mal est fait.
Ben oui. 2026.
2026. C'est édifiant, c'est terrifiant, mais voilà. Alors dimanche dernier, ça ne vous a pas échappé, ou alors vous viviez dans une grotte, c'était le second tour des municipales. Et en Seine-Saint-Denis, il y a un type qui a perdu son poste de maire, un copain d'Éric Zemmour et de Sarah Knafaud, un raciste décomplexé qui a géré le Blanc-Ménil comme d'autres ont géré les colonies au 19e siècle. C'est le sénateur LR Thierry Meignan. Il a perdu face au nouveau maire, Demba Traoré et sa liste d'union des gauches. Jusqu'ici, on se réjouit. Mais, on le sait, le raciste décomplexé est capable de tout, et notamment de toutes les outrances. C'est à cela qu'on le reconnaît, notamment. Et alors lui, il s'est pas gêné. Celle qui en a fait les frais, c'est peu de le dire, c'est une journaliste qui s'appelle Nassira El-Mouadem, autrice de l'enquête « Main basse sur la ville, enquête au Blanc-Ménil, territoire trahi de la République » aux éditions Stock. Et cette journaliste, eh bien, elle est menacée de mort et insultée par ce sénateur. Elle raconte, je la cite, « intimidée, suivie, mon matériel volé jusque devant l'école de mes enfants. Aujourd'hui, le sénateur et ex-maire du Blanc-Ménil, Thierry Meignan, me menace de mort. » Elle le cite, « je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J'irai au bout. Elle va mourir. Je la tue. » Ça, c'est des propos qu'il a tenus dans une interview au quotidien Le Monde et il poursuit en traitant la journaliste de salope. Dans son enquête, elle avait notamment mis au jour, des affaires de clientélisme, de harcèlement, de consommation de drogue. On a l'impression que c'est partout, hein, mais chez ces gens, ces députés et ces sénateurs. Et puis, une étrange subvention attribuée à une association tout récemment créée par Sarah Knafaud. Voilà, amie de cet ancien maire. Nassira El-Mouadem et sa maison d'édition Stock ont déposé plainte contre le sénateur LR Thierry Meignan. Un monsieur qui ne sera sans doute pas beaucoup inquiété. Hein, voilà. Tu dirais le quart de ça dans une entreprise, tu serais mise à pied ou virée immédiatement. Mais voilà, Marine, avec vous, à présent, on va parler d'une série documentaire.
Oui, petite actu un peu officieuse, en tout cas pas encore tout à fait officielle, c'est la création de la série documentaire « Sois mère et tais-toi » réalisée par Camille Lamy, Coralie Martin et Marianne Mingan est actuellement en phase de post-production. Alors tout part de Concarneau, pas parce qu'elles sont en partie finistériennes, mais parce que c'est là que se déroule le festival féministe, un brin punk et surtout très joyeux, le fameux Very Bad Mother. Camille, Coralie et Marianne, ce qu'elles ont fait en 2021, c'est qu'elles ont installé leur caravane dans cet événement en proposant cet espace comme un confessionnal, un lieu safe qui se prête aux confidences des parents. Et ça, celles qui sont concernées le savent, ces espaces sorores et sans jugement sont rares et précieux par conséquent. La série documentaire, elle donne à entendre la diversité des maternités. Il y a des mères solo, des mères lesbiennes, des parents trans et non-binaires, des belles-mères, des personnes racisées. Il y en a qui saturent, d'autres qui regrettent, et puis il y a celles qui racontent le deuil périnatal ou encore celles qui revendiquent son choix de ne pas avoir d'enfant. Ici, on l'aura compris, l'intime est politique. Être mère, ce n'est pas anodin face aux injonctions à la maternité, assignée aux tâches domestiques, à l'éducation, au prendre soin des mômes, à l'abnégation autant qu'à l'aliénation, elle ne doit pas broncher, pire encore, elle doit même sourire, et gare à celles qui ne suivent pas la ligne patriarcale. Ici, dans cette galerie de portraits-témoignages, on ne pointe aucune mauvaise mère, on dévoile des alternatives au modèle sacrificiel. On s'autorise à être autre chose qu'une mère au sens normatif du terme. Parce qu'il existe une multitude de manières d'être mère et que, d'entendre cette diversité et cette pluralité, ça libère, ça nourrit, ça construit nos imaginaires, nos façons de faire avec nos enfants et ou celles des autres, mais aussi ça apaise et ça solidifie nos liens avec celles qui sont mères et celles qui ne le sont pas. Ça vient interroger nos schémas familiaux et ouvrir le champ des possibles. En résumé, c'est ça qu'offrent les épisodes de ce documentaire intime, puissant et précieux, qui sera d'abord diffusé sur la plateforme Cube, en attendant de vivre en festival ou sur des chaînes médias ou autres. Dès qu'on en saura un peu plus sur la diffusion, je m'empresserai de vous en parler à nouveau et en détail, voire de donner la parole aux trois réalisatrices qui sont déjà bien OK pour ça.
Eh ben, j'espère bien. Hein, on les invite avec grande joie dans Les Héroïnes. Allez, on va faire une nouvelle pause musicale dans Les Héroïnes sur Canal B. On va écouter l'artiste multi-instrumentiste et productrice italienne Gaia Bonfi.
Thank you.
Elle a fait sensation aux dernières transmusicales de Rennes. C'était l'artiste italienne Gaia Banfi. Un peu de chialade, ça fait du bien aussi. Mais pour la bonne cause, là. On chiale parce que c'est beau. Alors, pour pouvoir porter plainte en France, et surtout pour voir sa plainte instruite, figurez-vous, Marine, qu'il faut payer. Hein, alors, si c'était si simple de porter plainte, peut-être que on le saurait.
Hein, oui, c'est ça.
Voilà, mais nous, on le sait. Toutes les victimes qui ont déjà été confrontées à la justice dans des affaires de violences sexistes et sexuelles le savent. 96% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Alors, généralement, une victime, elle va déposer plainte en commissariat. C'est une plainte simple et ça, c'est gratuit. La plainte avec constitution de partie civile, elle permet de relancer une enquête qui traînerait un peu trop ou une plainte classée en forçant la saisie d'un juge qui enquêtera. Et c'est une étape quasi systématique pour les victimes de violences sexistes et sexuelles puisque 96% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Enfin, seulement pour les victimes qui le peuvent, parce que ça a un coût. Et ça, c'est ce qu'ont découvert les assos et collectifs quand ils ont décidé de directement déposer une plainte avec constitution de partie civile suite aux propos de Brigitte Macron, qui a, je vous le rappelle, insulté les militantes féministes de Salcone parce qu'elles avaient interrompu le spectacle de l'agresseur Harry Habitant, lequel a bénéficié d'un non-lieu suite à la plainte pour viol d'une femme. Les séquelles gravissimes constatées sur la victime ont été reconnues par le tribunal qui n'a cependant pas jugé qu'elles prouvaient le non-consentement de la victime parce que c'est bien connu ça aussi Marine, une femme peut consentir à des lésions sexuelles d'une extrême gravité bien sûr. Voilà. Donc suite aux insultes de Brigitte Macron, 7 personnes se sont individuellement portées partie civile. Les tricoteuses hystériques et la présidente des tricoteuses hystériques. MeToo Media et la vice-présidente de MeToo Media. 3 égale 3, la présidente de 3 égale 3 et puis Marine Bruno, consultante et conférencière sur les questions d'égalité. Ces 7 personnes savaient qu'elles auraient une consigne à constituer car chacune doit payer pour que la plainte soit recevable. Son montant, il est librement fixé par le juge. Et là, on a le montant pour ces 7 consignations, 8 550 €. C'est énorme. Elles sont vraiment tombées de leur chaise quand elles ont vu ça. Ça illustre vraiment la difficulté d'accès à la justice pour les femmes victimes de violences. Donc non, ce n'est pas si simple de déposer plainte. Alors je vous rassure, elles avaient jusqu'au 25 avril pour rassembler la somme et la déposer. Elles ont réussi à obtenir cette somme en faisant appel à des contributions, des dons. Donc, elles sont assurées de pouvoir se constituer partie civile. Mais quand même, voilà, face à la nouvelle affaire qui concerne un mauvais chanteur de pop sucré dégueulasse, et tous les commentaires qui ont suivi, elles portent plainte pour l'argent. Ben non, au contraire, ça nous coûte de l'argent d'aller déposer plainte.
Et de l'énergie. Et de la santé mentale.
Exactement. Allez Marine, avec vous, on va passer à vos bonnes recos BD.
Ouais, aujourd'hui, j'avais envie de proposer une sélection de BD qui ont tout un point commun. Elles prennent soin de nos imaginaires. Et ça, c'est profondément politique et ça fait un bien fou au moral. Parce que les histoires qu'on lit, enfants comme adultes, elles façonnent notre manière de regarder le monde et nous-mêmes. Alors, on commence avec de la mignonnerie pour les 3-6 ans, tout en douceur avec Anna et ses doudous dans Balade en mer. Le nouveau tome de la série. C'est l'histoire d'une petite fille vive et imaginative qui embarque ses peluches dans une aventure pleine de fantaisie et c'est précieux. Parce qu'Anna, elle est active, inventive, meneuse, sans jamais être enfermée dans des clichés de genre. Elle explore, elle décide, elle crée, elle se trompe, elle en prend conscience, elle dialogue, elle est astucieuse. Bref, cette série rappelle aux plus jeunes et aux moins jeunes que les filles ont le droit d'être au centre du récit, de l'action et de l'imaginaire. On poursuit toujours avec une merveille de tendresse, c'est Gouttelette, le petit axolote. Alors Gouttelette, c'est une minuscule créature aquatique qui se sent différente, trop petite, trop fragile, pas vraiment comme les autres. Son aventure, elle se transforme en une métaphore bienveillante de l'acceptation de soi. Ce récit parle d'identité sans être un sujet lourd. Il dit aux enfants que la différence, c'est pas un problème, mais c'est plutôt une richesse à apprivoiser. Un album feel good qui nous réchauffe le cœur et qui est signé K.O.N.I. Mille, auteurice du coup de cœur qui suit. Il s'agit de la trilogie Dragonté. Ici, on élève des dragons comme des plantes précieuses. On valorise la patience, la transmission et les liens intergénérationnels. Les personnages sont queer, racisés, âgés, jeunes et surtout, ils existent sans que leur identité soit un problème narratif entre guillemets. K. O'Neill, auteurice non-binaire, propose une fantaisie de la douceur, sans violence spectaculaire où l'écoute et le soin remplacent la domination. C'est un geste militant important et puissant qui montre que d'autres formes de récits sont possibles loin des modèles virilistes classiques. Ces albums offrent aux jeunes lecteurs et lectrices des mondes où la diversité, elle est naturelle, apaisée, légitime et ça fait un bien fou, je vous assure. C'est assez indescriptible avec cette trilogie. Et pour un public un peu plus âgé, il y a la plume et le dessin sensible et fantastique de Kizzy Yang. D'abord avec Taproot, le jardinier qui voyait des fantômes. Ça, c'est une histoire d'amour entre un jeune homme et un fantôme qui nous entraîne dans un récit bouleversant sur le deuil et l'attachement. L'amour queer y est montré avec une délicatesse rare, sans sensationnalisme, juste sincère, humain, universel. Ça se lit facilement et ça s'inscrit dans nos esprits avec tendresse. Et puis il y a Hello Sunshine, plus dense, plus sombre, qui explore les traumatismes, les relations toxiques et la reconstruction. J'avoue, personnellement, je suis pas très attirée et séduite par l'horrifique, mais là j'ai été intriguée et absorbée. Parce que le genre se met au service des émotions que vivent beaucoup de jeunes, l'anxiété, la solitude, la difficulté à se construire. Offrir ces récits, c'est reconnaître que ces expériences existent et qu'elles méritent d'être racontées. Et c'est fondamental. Quand des récits queer sont créés par des artistes concernés, ils gagnent en justesse, en profondeur et en complexité. On quitte les caricatures pour entrer dans l'authenticité. Exit le cis hétéro-gaze. Ici, on plonge dans les vécus et ressentis des personnes LGBTIQIA+. Et dans cette idée d'imaginaire qui ouvre grand les possibles, il faut absolument parler aussi de superpunk. Là, on change d'ambiance, on est à la limite du comics, mais rien à voir avec les récits testostéronés, c'est pas facile à dire, ils nous enguiguinent jusqu'au bout, de Marvel ou de DC. Là, on entre dans un univers foisonnant, coloré, presque électrique. Superpunk, c'est l'histoire de Violetta, une préado rebelle qui vit au Brésil, qui, munie de son skate et de son Walkman, sans oublier ses playlists rock et punk, combat les monstres qui envahissent la ville. Elle déborde d'énergie, d'inventivité, d'imaginaire débordant, de paranoïa, c'est génial. Elle est puissante et vulnérable en construction. Bref, elle montre qu'on peut douter et lutter et qu'avec des amis qui nous entourent, on est plus fort, plus forte. Et enfin, je vous propose deux ouvrages pour adultes qui viennent élargir encore cette réflexion sur les représentations. D'abord, une BD consacrée aux belles-mères qui s'appelle « Cher marâtre, quand les belles-mères se confient ». C'est un récit très humain autour de la parole des concernés sur le rôle, la place et les vécus de cette figure souvent moquée, caricaturée par Disney principalement, en marâtre froide, jalouse ou intéressée. Ici, elle parle elle-même de leurs doutes, de leur place fragile, de l'amour qu'elle tente de construire et encore une fois donner la parole aux concernés. C'est un geste féministe fort et impactant. On sort du stéréotype pour retrouver l'humain et pour découvrir l'ampleur du sujet qui reste encore très impensé. Et puis pour terminer, il y a la fragilité des hommes qui démonte l'un des piliers de l'éducation genrée, cette idée que les hommes devraient taire leurs émotions. Cette BD montre combien cette injonction fabrique du silence, de l'isolement et parfois de la violence. Elle ouvre la voie à d'autres masculinités plus vulnérables, plus libres, plus humaines. Rien à voir quand même avec ouvrez les vannes des ouin-ouin. On n'est pas du tout on est dans pas l'esprit. Là. Donc toutes ces œuvres, en fait, elles partagent une même force, celle de réparer les imaginaires. On revendique la bienveillance plutôt que la domination, on préfère la tendresse à la performance, on favorise le dialogue plutôt que la violence et on donne la parole à celles et ceux qu'on entend peu pour déconstruire les stéréotypes de genre pour les adultes et pour justement éviter de les construire dès le plus jeune âge. Parce que ces albums montrent des filles aventureuses, des garçons sensibles, des identités multiples, des familles diverses, des amours pluriels. Et dans une société à l'actualité chaque jour un peu plus sombre, les lire, ça m'a donné de l'espoir. Comme si ces récits venaient panser une partie des agressions et traumatismes du quotidien. Ça renforce l'esprit et ça allège le cœur. Ces histoires montrent que les modèles changent, qu'ils se diversifient et qu'avec elles, l'horizon s'élargit, chassant la grisaille et la noirceur pour laisser enfin de la place au possible, en clair et en couleur, vers un monde plus inclusif et bienveillant où chacun et chacune peut vivre en toute tout Adelphité et assumer son existence. On en a franchement besoin.
Ouais, tu m'étonnes. Merci Marine. Alors, si vous n'aviez pas assez de roco pour votre week-end et votre dimanche après-midi, j'en rajoute deux. Je profite, moi, pour recommander un livre, alors qui est paru en octobre dernier, mais on n'en a pas parlé dans les héroïnes. C'est celui d'Edouard Durand. Edouard Durand, c'est un magistrat spécialiste de la protection de l'enfance et de la lutte contre les violences faites aux enfants. Il a co-dirigé la CIVIS, Commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, de 2021 à 2023. Il a été un peu écarté par un certain Emmanuel Macron. Il devait trop bien faire son travail. Et il a co-écrit avec l'artiste Meylan Chapiron, Tes droits et tes besoins comptent. C'est aux éditions La Martinière. Ça s'adresse aux enfants. Et je trouve que c'est un bon cadeau à faire à un enfant, mais aussi à leurs parents, pour qu'ils se rappellent que leurs enfants ont des droits. Au total, le livre évoque 12 droits fondamentaux de l'enfant inscrits dans la Convention relative aux droits des enfants, CIDE, l'égalité, l'identité, le droit à s'exprimer et à être entendu. À chaque fois, c'est traité à hauteur d'enfant et c'est vraiment bien fait. Allez, une dernière reco, il s'agit du dernier numéro du 1 Hebdo, paru ce mercredi et dont le sujet est « Pouvoir où sont les femmes ?» avec un entretien de l'incroyable historienne Michèle Perrault qui nous rappelle d'où vient historiquement la mainmise masculine dans l'exercice du pouvoir. Franchement, vous êtes gâtés là pour votre week-end, il y a de quoi faire. Moi, j'ai une petite devinette pour vous, Marine, et pour vous, chers auditeurices. Qui a dit « Je serai plus heureux d'être pédé que d'être ceux qui m'insultent plein de haine, à n'avoir rien d'autre à faire que d'insulter. Ce qui me dérange, c'est qu'une personne homosexuelle ait peur de le dire à cause de ce genre de réaction. Ne pas pouvoir se montrer tel qu'on est et aimer qui on veut, c'est inacceptable. C'est pour cela que la lutte contre l'homophobie est essentielle et que je m'y implique. » Alors, un indice, c'est un homme.
C'est un homme.
Un autre indice, il est espagnol.
Ah, parce que, ouais, j'allais dire quelque chose, mais j'allais dire justement, il est déjà gay, alors ce serait bizarre de se dire...
Ben non, parce qu'il dit « je serais plus heureux d'être pédé ». Il ne l'est pas. Il est hétéro, c'est un homme, il est espagnol. Il porte le même nom de famille qu'un célèbre chanteur espagnol qui, lui, était plutôt du côté des machos. Et ce n'est pas son père, voilà. Et allez, dernier indice, on pourrait entendre parler de lui pendant la prochaine Coupe du Monde de football.
Donc oui, je sèche parce que je suis nulle en foot.
Mais en tout cas, c'est un footballeur. C'est l'attaquant du Real Club Celta de Vigo. Je vais prononcer son nom à la française, Borja Iglesias. En espagnol, ça donnerait un Borja Iglesias. Il a été la cible d'insultes homophobes parce que pendant un match en janvier, il portait du vernis à ongles. Alors les supporters de son club de Vigo se sont indignés de ces insultes et sont arrivés au match suivant avec les ongles également vernis. Ça, j'adore. Le footballeur, il n'est pas à son coup d'essai. En fait, en 2023, il s'était retiré de la sélection nationale espagnole car il était scandalisé par le comportement du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, qui avait agressé la joueuse Hermoso en l'embrassant sans son consentement. Alors maintenant que Luis Rubiales a été viré, on pourrait voir Borja Iglesias dans la sélection espagnole et donc le suivre. En tout cas, moi, je trouve ça, le suivre à la prochaine Coupe du Monde. Mais je trouve ça tellement rare dans le football et dans le sport en général que, voilà, j'avais envie de...
Il faut des meneurs.
Il faut des Borja Iglesias. Et en tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant à souligner.
Carrément.
Marine, on va se quitter avec une petite suite musicale. Je vous propose à suivre le titre Chial de Pyjama, le titre Wanda's Loving Boy de Chowski & Wood et Vive Albertine et son I Want More. On se dit à dans bientôt.
À tout bientôt, ouais.
Hein, à tout bientôt. On s'embrasse. On vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Et puis, prenez soin de vous et des gens qui vous entourent.
Exactement.
Merci, Marine.
Merci.
J'ai envie de rien. Je regarde. We'll be right back.
I want more. I want more. I want more. I want more.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.